la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous. Bonjour Eric Oberdorf. Eric, bonjour. Vous êtes danseur, réalisateur, metteur en scène. Vous êtes installé à Nice. Vous dirigez la compagnie Humaine. Et vous avez récemment collaboré à la chorégraphie de l'opéra Akhnaten, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'admirer. J'en ai profité pendant 2h30, j'étais très heureux. De Fil Glas, donc Akhnaten de Fil Glas, produit à Nice en novembre dernier. Et vous avez également réalisé la mise en scène de Phaéton de Lully, qui va être, donc après une interruption, un report dû au Covid, qui va être produit à Nice en mars prochain. J'espère également avoir l'occasion de le voir. Lors de la préparation de cet entretien, j'avais donc préparé les jeux de questions et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu cette semaine sur France Musique, au milieu de semaine, un entretien intéressant avec Caroline Sonrier qui a rédigé un rapport qu'il faut lire quand on s'intéresse à l'art lyrique et à l'opéra, qui s'appelle « La politique de l'art lyrique en France ». Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Que c'est un rapport qui fait 130 pages et qui nécessite une lecture et une analyse attentive. Bonjour Eric.
Bonjour.
Est-ce que j'ai un peu décrit brièvement votre CV ? Il est exact ?
Oui, complètement. Et puis vous avez cité mon actualité proche. Donc après il y a beaucoup d'autres choses en plus, mais écoutez, c'est très exact.
Pour commencer, parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué à la lecture de votre CV, j'ai lu que vous aviez découvert le mouvement et la danse par les arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler quelques minutes ?
Quand j'étais enfant, j'ai fait du judo. J'ai commencé par ça. En fait, ça a été ma première activité sportive et presque scolaire. Je devais avoir 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Et ça m'a donné... ce que peuvent apporter les arts martiaux, c'est-à-dire une connaissance du corps, du mouvement, de l'espace, le rapport au corps de l'autre, le rapport à la discipline aussi, à la circulation de l'énergie. Et ça, ce sont des éléments que j'ai pu croiser ensuite avec dans la pratique de la danse. Et j'ai fait du judo jusqu'à l'âge de 16 ans, en parallèle à mes études de danse au conservatoire de Nice. Et puis ensuite, j'ai laissé ça de côté et c'était compliqué de concilier les études et puis le début de carrière. Et ensuite, j'ai pu reprendre une pratique. En fait, j'ai fait du Yoseka de Budo, qui est un art martial dérivé du karaté, du jujitsu, de l'aïkido. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je l'ai pratiqué pendant quelques années en parallèle à ma carrière de danseur, puis ensuite le Shotokan Budo, qui est le karaté traditionnel.
Merci. Donc vous aviez une forme de corps déjà très modelée, j'allais dire marquée, c'est pas le bon terme, je dirais modelée par la pratique des arts martiaux, et vous avez ensuite étudié la danse pendant combien de temps ?
Alors, j'ai commencé la danse juste une fois par semaine, comme ça, lorsque j'avais 10 ans. Mais j'ai vraiment commencé à pratiquer régulièrement la danse en entrant en classe à horaire aménagé au conservatoire de Nice, lorsque j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans et demi. Et donc là, ça a été une pratique quotidienne jusqu'au premier prix de conservatoire, puis ensuite école de danse de l'opéra, puis de l'opéra de Paris, pardon, et ensuite la carrière professionnelle. Donc mes études de danse m'ont pris 8 années, et en parallèle de cela, j'ai continué les arts martiaux. Ce que vous disiez sur le corps est très juste, à la fois musculairement, mais aussi articulairement. Et également le rapport au sol, c'est-à-dire que la danse classique utilise le sol comme un support sur lequel on vient se repousser, hein, créer une une verticalité. Et les arts martiaux, tout comme la danse contemporaine, il y a cet ancrage et le fait de faire corps, si je puis dire, avec le sol, ou en tout cas de vraiment travailler l'ancrage au sol.
C'est tout à fait juste. On ne pourra pas approfondir ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans certains arts martiaux, vous citiez le judo, des katas, donc des formes, des formes techniques qui sont spécifiquement adaptées au sol, à la pratique du judo au sol. Le kata meno kata, par exemple, qui est le kata des contrôles, se fait exclusivement au sol.
Bref, oui, pardon. Non, je vous en prie.
Non, je vous écoute, Eric.
Non, je voulais dire aussi, quand je parle de rapport au sol, c'est aussi le même lorsqu'on se tient en station debout, la danse classique amène à avoir le fait de sentir le sol, vraiment, on se repousse complètement du sol et on a cette tendance à l'élévation et au contraire, en karaté ou en judo, on vient vraiment s'ancrer et travailler le poids dans le sol, même dans cette station verticale. Et ça, c'est l'un des principes aussi de la danse contemporaine. C'est pas seulement la circulation du corps au sol dans les mouvements au sol, mais c'est aussi dans le rapport lorsqu'on est debout, de sensation d'ancrage.
C'est très juste, merci. Et c'est vrai que quand on fait référence au sol, à la dimension horizontale, c'est une dimension qui évoque aussi les types de publics que vous privilégiez, en tout cas avec lesquels vous recherchez à établir des contacts artistiques et culturels. Alors ça m'a beaucoup touché, puisque vous insistez sur le travail que vous faites auprès du public, en particulier des jeunes et des personnes en situation de fragilité sociale. Pardon. Qu'est-ce qui vous pousse ou qu'est-ce qui vous a amené progressivement à privilégier ou rechercher ce type d'activité avec le public cité?
J'essaie d'avoir une vision large de ce qu'est la vie et malheureusement le monde, par exemple le monde de l'opéra ou la danse contemporaine, même l'art contemporain, même s'ils ont beaucoup d'actions envers tous les publics, on s'aperçoit que les musées, les théâtres et les opéras ne sont fréquentés que par une tranche infime de la population, sauf exception bien sûr. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler une sorte de démocratisation de la danse contemporaine, ou en tout cas, c'est d'amener un regard différent sur l'acte de création et sur la danse contemporaine. Et je pense que c'est le corps est un enjeu fort de notre société. Le corps des jeunes, le corps des seniors, les enjeux de santé, les enjeux aussi philosophiques et religieux. Et politique, le corps comme endroit de résistance ou l'appropriation du corps de l'autre comme on le voit dans certains quartiers, sur le regard sur le corps des jeunes filles, hein, on essaie de le nier et de les empêcher d'avoir une connaissance et de s'approprier leur propre corps. Donc je trouve qu'il y a énormément d'enjeux autour de tout cela. Et il me semble que l'appropriation du corps, le fait de maîtriser son propre corps, de maîtriser l'acte de création, qui est en fait une ouverture sur soi, sur la connaissance de soi, mais aussi une ouverture sur la connaissance de l'autre, une ouverture à la curiosité et à la différence, ça font partie des éléments qui peuvent permettre à tous les individus composant une société de mieux vivre ensemble et de manière un peu plus apaisée. Donc il me semble important, moi je viens d'un milieu social extrêmement simple, dans lequel nous avions très peu de pratiques culturelles, et je mesure ce que la culture, la pratique de l'art ont pu m'apporter, mais ont pu apporter à d'autres personnes autour de moi. Donc voilà, il me semble que c'est très important, non pas de le faire dans le but de cocher deux ou trois cases et d'avoir des budgets, ce que l'on peut faire quelquefois cyniquement, mais en créant une véritable porosité entre le monde professionnel, la création et les publics, de leur ouvrir nos, mes cuisines, entre guillemets, de leur montrer comment on travaille, comment on procède, toutes les énergies qui sont mises autour des productions, et puis de, comme ça, de parler ensemble du monde dans lequel nous vivons.
Merci Eric. Justement, face à des groupes d'adolescents, donc filles et garçons, c'est l'adolescence, on va dire 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, donc on est un peu sarcastique. Vous êtes danseur, vous êtes un homme. Quand vous vous présentez à ces jeunes, quelle perception ils ont d'un homme qui danse, qui a une relation avec son corps particulière et surtout qui invite donc les adolescents, qui les invite à s'engager dans ce type de démarche qui est aussi particulière parce que ça met en jeu des choses qu'on n'est pas habitué à voir, à sentir. Quelle est la réaction du public?
Ça, bien sûr, il y a des réactions de rejet, hein, ça c'est clair. Après, c'est une question de présentation. Si on dit, voilà, vous allez faire de la danse, c'est compliqué pour des jeunes, adolescents, pour les garçons, parce que effectivement, il y a des connotations sexuelles notamment. Il y a aussi plus une identification envers des sports populaires qu'envers une pratique de la danse. Le côté hip-hop a commencé un petit peu à désacraliser les choses, donc ça peut être l'un des biais pour aborder la danse contemporaine, c'est-à-dire que c'est parler de mouvement, mais ça peut être aussi auprès des jeunes filles, et notamment de certaines qui pratiquent la danse et qui vont avoir aussi un regard très fermé. On a eu un regard très, très TikTok ou très clip de R&B ou de rap. Donc, et la même chose avec « Ah non, ça, c'est pas de la danse, c'est ça. » Et puis, voilà, et puis ça, c'est pas de la musique, et la musique, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de travailler autour de mouvement, du mouvement, de travailler autour aussi de la curiosité, de la discipline, de leur donner sans cesse tout un tas de tâches à faire au cours de l'atelier, qui sont des tâches relativement simples sur la mobilisation d'une articulation, sur tracer une ligne avec toutes les parties du corps, sur voilà des outils d'improvisation simples, mais qui les fait aussi se concentrer et non plus être spectateur de leurs actes. D'être complètement acteur de leurs actes. Et la partie la plus complexe, en fait, c'est d'établir la confiance qui se fait normalement au bout de deux ateliers à peu près. Avant ça, ça peut être compliqué, mais le fait que je sois un homme, en fait, déjà permet d'ouvrir un petit peu le débat assez bizarrement parce que j'arrive, je parle rapidement de mon expérience, de mon parcours. Et puis je me suis aperçu aussi d'une chose, l'une des clés, en fait, c'est l'exigence. On s'aperçoit que toutes les réticences, toutes les résistances, tous les actes de, alors j'emploie des guillemets, mais de sabotage du processus que certains jeunes peuvent mettre en œuvre, bah, tout cela, en fait, ça va s'estomper si on baisse pas les gardes et si on reste... en tant qu'intervenant, artiste intervenant, si on reste absolument sûr de ce que l'on veut faire et qu'on trace sa route et qu'on on devient exigeant avec eux. Parce que, en fait, sans bien sûr, en essayant de laisser personne en bord de chemin, mais le fait de garder un axe d'exigence, bah, en fait, c'est une forme de respect que l'on a pour eux. Et ça, c'est une conviction forte pour moi. Et que j'essaie de aussi de partager avec mes équipes, mais ils le sont. C'est au plus on va être exigeant, rigoureux, discipliné, et au plus finalement les jeunes participants aux ateliers vont adhérer au projet.
Merci Eric, c'est très clair. Je vous avais interrogé, on avait un peu échangé quelques courriels, et vous m'aviez dit oui, la danse est partout. C'est vrai que dans la publicité, la télé, sur Internet, la danse est un véhicule de l'épanouissement du corps, illustre la liberté. Enfin, c'est un support à tout un tas de messages publicitaires et commerciaux. Et donc, les adolescents avec lesquels vous travaillez ont ces images en tête. Hein, ils sont modelés avec ces images. Et puis, on sort de deux ans de difficultés où finalement, dans beaucoup de situations, les corps n'ont pas bougé. Avec la reprise de l'activité depuis la rentrée 2021, avez-vous eu l'occasion de refaire des ateliers avec ces adolescents? Et y a-t-il eu des difficultés particulières après 2 ans de confinement, de réouverture?
Après 2 ans de... La situation a été très paradoxale pendant les différents confinements et l'année et demie qui vient de s'écouler, parce que en fait sur des projets scolaires nous avons eu tout un tas de stop and go et donc des projets initiés avortés qui n'allaient pas au bout avec une grande frustration hein, pour les étudiants et puis une incompréhension en fait des règles qui étaient changeantes. Ça peut être valable pour tous, mais donc le fait de subir cette situation. Il y a, depuis qu'on a pu vraiment reprendre, une grande envie de la part des jeunes. Vraiment une grande envie de bouger, de s'exprimer, de dire des choses, de faire des choses. C'est vrai aussi pour une partie des équipes pédagogiques, mais pas pour toutes. Et on s'aperçoit que les priorités ne sont pas partout les mêmes. En vous donnant un exemple, nous avons un projet avec deux écoles primaires à Nice et avec les mêmes règles éditées il y a 10 jours, certains ateliers continuent et puis dans une autre école, ça ne continue pas. Donc là, il s'agit vraiment d'un positionnement des chefs d'établissement ou des équipes pédagogiques et de manière à voir comment ils établissent aussi leurs priorités par rapport à un calendrier d'apprentissage académique et par rapport à leur fonctionnement et par rapport à l'épanouissement de leurs élèves. Donc il y a, au vu de tout cela, une très très grande envie de la part des étudiants, des élèves, et ça fait vraiment plaisir à voir. Peut-être une plus grande curiosité finalement, puisque le fait d'avoir été sevrer un petit peu, donc il y a une certaine ouverture au dialogue, en tout cas sur les projets qu'on mène en ce moment, que ce soit en réseau d'éducation prioritaire ou des quartiers plus difficiles, que ce soit en milieu carcéral aussi dernièrement à l'automne, ou que ce soit dans des quartiers plus privilégiés, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un grand besoin de bouger le corps, de sortir de cet enfermement à la fois physique et psychologique que l'on connaît.
Merci. Une question concernant le rôle des collectivités, parce que en plus c'est assez délicat. Les collectivités ont encouragé les gens à se protéger, ont organisé, ont pris des mesures et qui ont quand même été contraignantes pour la population. Et donc aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de reprendre. Quel est le rôle d'une collectivité comme Nice dans la reprise d'ateliers en école primaire, par exemple?
Alors, la ville, pendant le confinement, a déclenché un plan d'action et de création, notamment de résidences d'artistes dans les écoles primaires. Donc, il s'est engagé dans un partenariat avec notamment la DRAC, pour avoir des financements pour cela et ils sont sur une montée en puissance par rapport à leur engagement pour tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Donc là, on a donc à la fois effectivement collectivité, mais ce qui est vrai pour la ville de Nice et on peut aussi le mettre à l'échelle de la région ou à l'échelle de l'État et notamment de la DRAC, il y a à la fois une volonté de protéger la population, de protéger aussi les professionnels, notamment les professionnels de la culture, de protéger leur existence professionnelle, hein, parce que on a eu des confinements, mais en même temps, on pouvait quand même exercer, produire, rechercher, être dans les studios de danse. Hein, et c'est vrai aussi pour le théâtre, pour le spectacle vivant en général. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, que ça soit par la région, des dispositifs de soutien financier, par la DRAC avec les opérations été culturelles du ministère de la Culture et en DRAC PACA, cette opération s'appelle Rouvrir le monde, donc à l'attention des publics périscolaires. Et puis par la ville de Nice également, à la fois dans des soutiens financiers ou des commandes pour des spectacles en plein air. Donc on a quand même une prise de conscience de la part des différentes collectivités à tous les niveaux de la difficulté qu'a entraîné la la difficulté dans les activités culturelles qui a entraîné la fermeture des théâtres, une réouverture assez tardive qui allait à l'encontre des rapports qui ont été faits au niveau sanitaire pour la sécurité. Et donc, voilà, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour l'accompagnement des artistes. Et puis, je finirai par l'accompagnement aussi dont ont bénéficié les intermittents du spectacle qui ont bénéficié vraiment d'un fort accompagnement. Certains artistes ont été laissés un peu en cours de chemin, voilà, sans trop de ressources. Et là, je pense plus aux artistes auteurs et notamment aux plasticiens, aux photographes, à ce type d'artistes.
Il y a eu des aides, effectivement, mais peut-être moins massives que dans le spectacle vivant. Mais là, ça correspond à un déséquilibre d'origine qu'on a du mal à rattraper. Le numérique a eu une forme de développement. Il était déjà présent. Il y a des captations. Il y a toujours eu des captations dans le spectacle vivant, mais il a pris une importance peut-être plus grande à l'occasion de la contrainte sanitaire. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez avec dans les ateliers avec des adolescents ou bien un outil que vous employez dans vos chorégraphies?
Ben, c'est un outil que j'utilise principalement en créant, puisque je réalise aussi des films de danse, et ces films souvent sont diffusés, ou en tout cas pendant toute cette période de Covid, est fortement utilisé sur les plateformes ou par des festivals en ligne, ou voilà, donc c'est vraiment un moyen de montrer un travail de création et de le montrer de manière internationale, de toucher des publics qu'on ne peut pas toucher habituellement et de permettre de montrer une autre manière de travailler, en tout cas. Sur tout ce qui a été captation de spectacles vivants, il y a eu beaucoup d'incitations. En fait, je pense qu'on est sous-équipé et en fait on n'a pas développé cette pratique, en tout cas pas assez, notamment en France, hein, on s'est pas assez structuré au niveau des captations, des modes de diffusion. Et finalement, comme toute crise, on s'aperçoit que une crise fait beaucoup de dommages, mais en même temps, ce sont des périodes de mutation qui encouragent des prises de décisions rapides et donc une plus grande réactivité et rapidité dans les mutations. Donc, je ne pense pas que le numérique va remplacer, rien ne remplace le contact direct avec une œuvre ou avec un artiste. Voilà, le spectacle vivant, c'est porte bien son nom et être dans une salle de spectacle ou dans un musée pour avoir une performance ou dans la rue, enfin, c'est rien ne remplace cette expérience-là. Et par contre, ça incite à structurer, à réfléchir, à créer un petit peu différemment. Et vous parliez en introduction de l'opéra Akhmaten. Il se trouve que je suis rentré dans cette aventure-là parce que Lucinda Childs ne pouvait pas faire le déplacement à Nice, que j'ai eu le bonheur de collaborer avec elle plusieurs fois par le passé, et qu'elle avait confiance en moi, et qu'elle m'a demandé d'être son représentant sur place afin de faire la création à la fois de la chorégraphie, de la mise en scène d'Akhmaten par Zoom. Donc une expérience absolument unique. Nous avons monté un opéra, Lucinda Childs était à New York, souvent à 5 heures du matin pour une répétition à Nice qui commençait à 11 heures. Et voilà, et elle a réalisé sa mise en scène de cette manière-là. Donc ça par contre, c'est une par rapport à l'outil numérique, c'est juste absolument incroyable l'usage qui en a été fait, et puis de démontrer qu'il était possible de réaliser à distance une mise en scène.
Merci Eric. On a évoqué tout à l'heure les ateliers que vous faisiez, vous réalisiez avec les adolescents, et vous avez dit que oui, en fait, la culture de ces adolescents, la connaissance qu'ils ont de la danse, ça passe par la musique. Vous avez cité le R&B, je crois, le rap aussi. Et en 2024, les Olympiques vont avoir lieu à Paris. La région réfléchi à une manière de travailler sur les Olympiades culturelles, donc qui sont des événements parallèles aux Olympiques et qui concernent la culture. Ces Jeux Olympiques de 2024 vont voir de nouvelles disciplines dans le champ des Jeux Olympiques, comme le breakdance ou le skateboard. Est-ce que ce sont des formes avec lesquelles vous êtes habitué à imaginer des spectacles ou des chorégraphies?
Le tout ce qui est sport de glisse, skateboard, choses comme ça sont des disciplines qui me plaisent. J'ai pas mal pratiqué la planche à voile notamment, donc le funboard. Enfin, c'est un intérêt, je dirais, plus personnel, mais en même temps une certaine culture aussi de ces sports de glisse. Donc moi j'aime beaucoup hein, le mouvement qui est généré et je trouve qu'il y a pour reprendre juste les têtes de proue comme Tony Hawk ou voilà, c'est des gens absolument fantastiques en skateboard. Et puis le hip hop, c'est une danse urbaine, c'est une danse qui a créé sa propre histoire, qui vient de la rue, qui s'est structurée d'une certaine manière et qui d'ailleurs refuse sous une certaine forme, notamment l'enseignement, refuse une structuration institutionnelle. Donc ça conserve encore cette liberté-là, malgré tous les efforts du ministère de la Culture. C'est vraiment un moyen d'expression absolument formidable, mais on retrouve là-dedans aussi plein d'influences. Maintenant, on, par rapport au corps et à l'écriture, quand en mouvement sur scène, on est vraiment dans un croisement et une hybridation. Je pense que tout créateur, tout chorégraphe, se laisse également influencer par ce qu'il peut découvrir autour de lui. Et le hip-hop en fait partie, de même que le nouveau cirque, par exemple. On a des circassiens maintenant qui sont des danseurs absolument extraordinaires. Donc, dans mon travail de création, il est évident que j'inclus ces formes-là dans ma réflexion sur l'écriture de la danse. Effectivement, les énergies impulsées, la technicité, le rapport à la virtuosité, mais pas seulement aussi, c'est comment s'emparer de ces écritures et d'en faire, de conserver l'identité de ma propre écriture, notamment à travers la poésie, à travers le rapport aux thématiques que je développe, et ainsi de suite.
Merci, Eric. Un dernier mot, vous travaillez sur quel projet particulier en ce moment?
Alors, je travaille en ce moment à remonter l'opéra Seven Stones que j'avais créé au Festival d'Aix-en-Provence en 2018. Nous le donnons fin janvier à Dortmund, à la Concerthaus de Dortmund, avec le chœur Absentus et puis les quatre solistes chanteurs. Donc, c'est un opéra a cappella du compositeur Andrei Adamek. J'ai un autre projet avec Andrei Adamek, dont la première aura lieu à la Friche de la Belle de Mai le 14 mai, dans la programmation du GMEM, Centre National de Création Musicale. Voilà, c'est un très beau projet qui s'appelle Reaching Out, qui est une coproduction entre ma compagnie, la compagnie humaine, et l'ensemble des Seven, basé à Berlin. Donc avec des danseurs, des musiciens, des chanteurs. Tout ce rapport-là à la musique est extrêmement important pour moi. Et puis il y a cet opéra Phaéton, donc que je vais finalement pouvoir créer. La première est prévue à l'Opéra des Côtes d'Azur le 23 mars 2022. Ça, ce sont les projets en cours de création. Et puis il y a toujours l'actualité sur les dernières créations de la compagnie qui sont en tournée avec les Glaneurs de Rêve, un trio de femmes et une fusion entre la musique baroque et la musique rock, tout ça sur l'univers du rêve. Et puis Ma vie rêvée, qui là parle de... C'est une pièce qui est née à partir de projets menés en milieu carcéral et qui nous parle de l'enfermement. Comment un individu peut se retrouver enfermé, emprisonné dans son propre corps, et cet enfermement nous renvoie au confinement, à l'enfermement physique, mais aussi à l'enfermement psychologique, social, sociétal, religieux, à tout type d'enfermement.
Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, chers auditeurs de Fréquence T. J'espère que nous avons évoqué de manière impressionniste un peu, mais quand même assez précise. L'activité d'Eric Oberdorf, chorégraphe, metteur en scène et réalisateur à Nice et directeur de la Compagnie Humaine. Merci à nouveau. Vous pouvez réécouter cet entretien sur Fréquence T, la radio des agents territoriaux. Merci.
Merci.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.